bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Galère, au studio de la Friche Belle de Mai, avec notre super technicien Sidi. Et nous enregistrons, là, nous sommes le lundi 13 avril. On aime beaucoup enregistrer le lundi parce que le lundi, en fin d'après-midi et début de soirée, devant les grandes tables de la Friche Belle de Mai, il y a un super petit marché de producteurs. On peut trouver du poisson, des légumes, des pâtisseries, du miel, le miel de Zan en particulier. Voilà. Donc si vous pouvez venir le lundi aux grandes tables de la Friche de Lemay, vous verrez ce marché de producteurs. Mais là, nous sommes donc dans l'émission Une heure en Palestine. Et je suis là parce que je suis Philippe, je suis membre de Palestine 13, je suis l'un des animateurs et animatrices de cette émission Une heure en Palestine. Donc parfois c'est Palestine 13, parfois c'est l'Union juive française pour la paix, parfois le collectif Marseille-Gaza en résistance, parfois les gens de la campagne internationale BDS, boycott, désinvestissement, solidarité. Et cette émission est diffusée donc aujourd'hui, mercredi 22 avril. Et en avril, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire chez nous, à Marseille, ou plus exactement, pas vraiment à Marseille, plutôt à l'Estac, où pendant tout le mois de mars, des jeunes équipes d'internationaux, hommes et femmes, et beaucoup de femmes d'ailleurs, sont venues préparer des bateaux, 20 voiliers exactement, qui constituent la petite flottille française 2026, Thousand Madeleine to Gaza. Donc on rappelle que depuis que le blocus de Gaza a été instauré par Israël en 2005, trois ans plus tard, dès l'année 2008, des flottilles se sont mises en route maritime, hein, donc pour contre ce blocus, pour faire respecter les lois internationales qui dit que lorsque des civils sont victimes ou de catastrophes naturelles ou a fortiori de guerre, eh bien il doit y avoir des systèmes qui permettent d'amener à ces civils le minimum pour survivre, au moins de quoi boire, de quoi manger, de quoi se soigner, et puis y compris bien sûr pour les enfants, de pouvoir continuer à étudier, etc. Voilà, et donc en 2026, encore plus qu'en 2025, il y a une mobilisation internationale considérable. En 2025, la Thousand Madeleine to Gaza, plus la Global Sumut Flotilla, parce qu'il y a plusieurs flottilles, avait réussi à réunir plus de 45 bateaux, des voiliers pour la plupart, mais aussi des gros bateaux à moteur, avec des gens venus de pays du monde entier. Et malheureusement, une fois de plus, tous ces bateaux, tous ces voiliers avaient été attaqués de façon tout à fait illégale dans les eaux internationales par la marine israélienne. Alors, on va entendre dans cette émission la rediffusion du témoignage de la doyenne des flottilles 2025 qui s'appelle Isaline Chouri et qui s'est engagée sur donc le gros bateau qui s'appelait Conscience en 2025 alors qu'elle avait 83 ans. On écoutera donc de nouveau Isaline Chouri. C'était une émission qu'on avait passée en octobre. Mais auparavant, la nouveauté un petit peu de cette flottille, c'est qu'il y a une coalition aussi française qui a armé, mais j'aime pas ce mot, pourtant c'est un mot maritime, qui a équipé deux voiliers. Et j'ai pu rencontrer là, à l'Estac, Sylvie, l'une des adhérentes de Palestine 13, qui fait d'ailleurs partie du bureau collectif, et qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il lui a pris là, quelles ont été ses motivations pour s'engager dans une aventure pareille. Hein. On rappelle que les flottilles, c'est pas des croisières, hein. Ce sont des bateaux petits qui s'engagent sur une mer qui est très dure, la Méditerranée. En plus, là, cette fois, c'est en avril, donc même si c'est le début du printemps, c'est pas du tout des conditions estivales, style la croisière s'amuse, voilà. Donc on va entendre Sylvie, là-bas, que j'ai pu rencontrer à ce fameux quai de l'Estac, que les Estaciens appelaient encore il y a quelques temps la digue sans nom, et qui, après un mois de travail incroyable de ces jeunes, très très bien soutenus par énormément d'individus et de collectifs estaciens, eh bien, a mis les voiles, donc le samedi 4 avril, on écoute Sylvie. Alors nous sommes à l'Estac, nous sommes le vendredi 3 avril à J-1 du départ du groupe des bateaux marseillais, des flottilles contre le blocus de Gaza. Donc des bateaux sont arrivés petit à petit de différents ports de Méditerranée. Ils sont d'abord passés par Port-Saint-Louis où ils ont été accueillis par les amis de la tribu maritime. Et dès qu'ils sont arrivés là, et même avant qu'ils arrivent là, tout un tas de collectifs estacéens, des individus, des associations, le collectif Faites le Grand Estac, etc. a fait en sorte que ce qu'est, dont on veut depuis des années que voilà, le public puisse utiliser pour se promener, etc., soit propre. Il y a un grand hangar qui a été déblayé, ce qui fait que pendant des semaines, là, tout un tas de gens ont emmené de la nourriture, des vêtements, etc., du matériel pour naviguer, évidemment. Et donc, c'est demain, samedi 4 avril, que les bateaux vont partir. Mais aujourd'hui, je suis à bord d'un beau voilier qui s'appelle Nausicaa, et à bord duquel Sylvie a trouvé place. Elle qui avait postulé l'année dernière, hein, suite à la grande flottille, c'était une grande première en 2025, le fait qu'il y ait plus de 40 voiliers de pays internationaux qui se dirigent vers Gaza contre le blocus. Et donc Sylvie, tu m'as expliqué que tu avais postulé et que finalement tu te retrouves là parce que tu as senti que la Southern Badlin to Gaza, hein, c'est-à-dire le groupe qui part de Marseille, correspondait peut-être un petit peu plus à ce que tu pressens de ce qu'est cette flottille. Et puis par ailleurs, tu fais comme moi partie de Palestine 13. Donc Sylvie, comment ça se fait que tu te retrouves là, ce vendredi, pour mettre le cap vers Gaza?
Eh bien, d'une part, c'est l'appel de la mer. D'autre part, c'est Palestine 13. Et la FPS est partie prenante, enfin, avec la campagne française de cette flottille. Elle a deux bateaux, donc je suis sur un des deux.
Ok, et donc effectivement, la façon dont les postulants et postulantes se déclarent prêts à partir, que ce soit avec la Global Sumut Flotilla ou la Southern Malin Togaza, évidemment, au préalable, il y a, je dirais pas une enquête, mais oui, quand même, si. Bien évidemment. Et même plus que ça, d'ailleurs, j'ai moi-même rempli le formulaire de la Global Sumut Flotilla il y a quelques jours, puisque pour ma part, je vais embarquer sur le centre culturel embarqué. Donc, bien évidemment, il y a en coordination de ces flottilles tout un tas de gens, hommes et femmes, qui sont expérimentés, je dirais, dans les missions humanitaires en général et pour la Palestine en particulier. Et là, en plus, c'est une mission maritime. Et donc, finalement, tu as pu être retenu, je dirais, mais pas sur n'importe quel bateau. Donc, c'est un beau bateau, hein. D'ailleurs, c'est un des plus grands.
C'est le plus grand, à part le vôtre.
Voilà, c'est un des plus grands de la flottille. Et donc, en plus, moi, ce qui m'a beaucoup plu l'année dernière, en 2025, c'est que j'ai été appelé en août par des gens qui savaient que là, depuis 4 ans, j'ai créé un projet qui s'appelle la Route du Zaatar. Donc, je vends des produits palestiniens qui sont importés par les Aveyronnais là, de FIPSUK, France Import Palestine. Et ils m'avaient dit de venir. Et là, on s'est retrouvés à la grande salle, la si bien nommée de la Fraternité à la Belle de Mai. Et là, j'ai découvert, par rapport à tous les gens que je connais qui militent pour la cause palestinienne depuis des années, un public tout à fait nouveau, très jeune souvent et très féminin de surcroît. Et justement, tu es une femme, tu fais partie des nombreuses femmes qui s'engagent pour la flottille. Toi, tu es une équipière, mais il y en a plusieurs qui sont des skippeuses, on peut citer leurs prénoms. Il y a Capucine, il y a Jen, il y en a d'autres. Et donc, comment tu te sens là, un jour du départ, sachant qu'évidemment, pour l'instant, il s'agit de naviguer depuis Marseille jusqu'à la Sicile. Et là, il y aura un regroupement avec des bateaux qui vont de partir de Barcelone et d'Italie. Mais comment tu la ressens, cette première étape, donc de Marseille jusqu'à la Sicile?
Ben, je suis enchantée là, pour le moment. Vraiment enchantée.
Voilà, j'ai vu que je monte à bord de ton bateau. Il y a des gens dont je ne connais pas encore le prénom. Je sais qu'il y a deux hommes qui vont être co-skippers. Et on aime bien, en général, les mots qui commencent par co, hein. Il faut coopérer, il faut collaborer, on l'aime des fois un peu moins, mais enfin, en tout cas, voilà, il faut co-construire, co-gérer, etc. Moi, j'étais présent ici, là, à cette digue qu'on appelle encore sans nom, l'Estac, où les autorités du port maritime sont venues. Ils se sont vus obligés de faire une mise en demeure, puisque c'est un endroit, soi-disant, où des bateaux ne peuvent pas accoster. Mais quand ils ont compris quelle était la nature des gens qui venaient là, on n'est pas ici des fadas, des fous furieux, des je ne sais pas quoi. Non, c'est des gens parfaitement conscients de ce pourquoi ils sont là. Les lieux sont parfaitement respectés. Il y a tout un tas de structures qui ont amené du matériel et qui vont récupérer du matériel qui ne sera pas embarqué. Et je vois, en plus, qu'à bord de ton bateau, il y a des jeunes gens qui ont l'air sympas. Mais on en parlait tout à l'heure, être une femme en général dans ce monde, c'est pas facile. Et en mer en particulier, concernant le centre culturel embarqué, c'est un couple qui a créé une compagnie de théâtre itinérant qui s'appelle C'est la goutte d'eau et qui produit un spectacle qui s'appelle Les Embarqués EES et qui parle beaucoup de femmes qui autrefois, en se déguisant en hommes ou aujourd'hui, peuvent embarquer à bord de bateaux. Mais c'est pas facile. Alors on en parlait tout à l'heure, peut-être que vous serez plusieurs femmes à bord, mais ça c'est pas encore sûr.
Ben, peut-être deux.
peut-être deux. C'est l'idéal, deux. Il ne faut pas être seule femme à bord. Après, il y a des histoires de parité. Non, non, mais voilà, il ne faut pas être isolée en général. Hein, voilà.
Je ne me sens pas isolée au milieu des hommes, personne. Voilà. Bon, ce n'est pas un sujet.
Voilà, en tout
c'est
cas.
Ce n'est pas un sujet pour moi. S'il y a une femme, c'est bien. S'il n'y a pas de femme, c'est bien aussi.
Ok, en tout cas on a énormément de chance, là, toute la dernière quinzaine du mois de mars a été très très ventée, le chantier a été très dur à cause du Mistral, en plus on sait que le Mistral ça déséquilibre les lions, ça rend un peu fou, mais là ça y est, là, à partir de demain, samedi 4, jour du départ, ça sent vraiment le printemps, a priori la météo est bonne. Alors tu sais quelle distance nous sépare de Marseille, le port du départ jusqu'à la première étape, la Sicile?
Pas du tout.
Bon, ben à peu près ça fait 560 000, hein, en mer on compte en 1000 marins, donc pour faire court, allez, ça fait 1000 km. Donc sachant qu'un bateau normal marche à peu près à 5 nœuds, allez, on va faire course pour que ça soit facile, 10 km, il faut à peu près 100 heures, donc il faut à peu près 6 jours, hein, une semaine on va dire, parce qu'il y a toujours des aléas pour rejoindre la Sicile. Voilà. Et donc là, arriveront d'autres bateaux très nombreux qui partent de Barcelone. L'année dernière, des bateaux étaient partis de Tunisie, mais déjà en Tunisie, ils s'étaient fait agresser par des drones israéliens, donc cette fois, il n'y a pas de départ de Tunisie, mais en Sicile aura lieu un regroupement avec beaucoup d'Italiens, des gens de la mer Adriatique. Pour ma part, je resterai en Sicile pour faire un travail justement d'archivage de ce qui se sera passé pour la première étape et surtout de ce qui se dessinera pour la suite, et puisque là on est ici parce que je fais partie donc des gens de Palestine 13 qui animent l'émission hebdomadaire Une Heure en Palestine. En plus on va avoir là donc deux fois par mois une émission spéciale Une Heure en Flottille pour Gaza. Et donc Sylvie, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce départ là qui s'annonce dès demain? Il y a encore beaucoup de travail à bord du bateau, tu sais un petit peu qu'est-ce que tu vas avoir à faire dans le moment qui nous sépare du départ?
Ben là, ce matin, j'ai participé à ranger la bouffe, enfin les conserves et tout ça, les trucs secs, voilà, ça a pris un bon moment. Cet après-midi, on en reçoit encore le complément, donc je pense que
voilà,
ça va être ça, quoi, voilà, aussi, voir ce qui manque, s'il y a assez d'assiettes, voir s'il y a...
Ce qui est sûr, que ce qui est fondamental pour tous les êtres vivants en général, les êtres humains, c'est de bien, pouvoir bien manger et bien boire. Et justement, si on fait toutes ces actions, c'est qu'à Gaza, depuis des mois et des mois et des mois, malgré le soi-disant cessez-le-feu, les gens se battent, enfin, les gens, oui, se battent, pas entre eux, mais ils se battent pour trouver déjà de l'eau potable, pour trouver du bois, pour faire à manger, etc. Et là, donc, effectivement, l'organisation des flottilles fait que tous les bateaux ont été livrés en ravitaillement non périssable, évidemment, hein. Donc, ça, encore une fois, il y a toute une dynamique qui est en soutien de ces flottilles, que ce soit des particuliers, des institutions et autres. Concernant ce bateau Nausicaa et l'autre qui s'appelle Ryoko, hein, je sais que l'association France-Palestine Solidarité, mais tu peux me redire le nom du collectif que tu m'as cité tout à l'heure?
Campagne française Flottille de la Liberté pour Gaza. Ouais. Et en général, on dit la campagne française.
Voilà, et donc la campagne française, elle regroupe non seulement la FPS, mais aussi ATTAC, tu peux citer d'autres structures?
Je peux citer la CGT, la FSU, je peux citer LFI, je peux citer le MRAP qui a encore...
Voilà, ça c'est le groupe.
La liste est longue.
Voilà, ça c'est la campagne française, mais de façon... pas au-dessus, mais je dirais de façon plus englobante, les coordinations des flottilles font en sorte que chaque bateau soit ravitaillé en aliments non périssables. Après, bien évidemment, à chaque équipage de se fournir en denrées périssables, en denrées fraîches surtout.
Mais ça va arriver cet après-midi.
Voilà, ça va arriver cet après-midi. Voilà, puis là, on entend encore qu'il y a un peu de Mistral, donc on est à l'estac. Et puis, ben, merci Radio Galère de toujours, malgré le fait que cette radio rame à contre-courant, de toujours soutenir toutes les luttes qui ont du sens, et celle-là, vraiment beaucoup de sens. Et Sylvie, je crois que tu veux rajouter beaucoup de choses encore.
Je veux rajouter, non, un petit truc, mais qui me paraît important, c'est que les deux bateaux de la campagne française ont été accueillis par les 1000 Madeleines, et on va partir ensemble, en fait. C'est pas une flottille séparée, la campagne française. On est dans les 1000 Madeleines.
Surtout pas, hein. Il y a plusieurs structures parce qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, que ce soit des œufs ou des coques de bateau. Donc il y a plusieurs structures avec chacune un petit peu ses particularités, mais évidemment qu'il y a une convergence. Et parfois il faut être très groupé, parfois un peu plus séparé pour des raisons stratégiques aussi.
Ben là, on est très groupé.
Oui, parce qu'on est encore tous amarrés au départ, mais d'abord en mer, évidemment, on ne peut pas être très serré. Il y a des moments où il faut être très rapproché d'autres noms pour différentes raisons, que ce soit météorologique ou stratégique, mais évidemment qu'il y a une coopération, une collaboration entre toutes les structures qui envoient des bateaux en flottille contre l'autocluse de Gaza. Et encore une fois, je ne crois pas que ni toi ni moi, on ne prétend pas sauver quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est toujours marteler le fait que ce blocus de Gaza qui existe depuis 2005 est parfaitement illégal, comme d'autres blocus, que ce soit celui de Cuba ou autre. D'ailleurs, récemment, un grand bateau aussi a fait une flottille en soutien à Cuba. Contre le blocus, encore une fois, ce qu'on veut, c'est marteler le fait que quand des civils, des êtres humains sont en péril, que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle ou à cause d'une guerre qui est forcément injuste, il doit y avoir des corridors humanitaires. On sait que les corridors terrestres sont bloqués depuis des mois malgré le soi-disant cessez-le-feu, mais à terre on n'y voit jamais bien clair. Est-ce que c'est la faute de ce pays, du pays voisin, etc. En mer, c'est parfaitement clair. Il y a des eaux internationales. Depuis 2008 que des flottilles existent, aucun bateau n'a embarqué ce que les gens appellent des terroristes. Bien sûr que non, il n'y a pas d'armes, il y a des matériels pour les navigants, il y a du matériel pour les Gazaouis, et donc évidemment qu'en passant par la mer, c'est beaucoup plus limpide. Depuis 2008-2009, à part les deux premières années, des bateaux sont arrivés à Gaza, mais les autres années, ce sont dans les eaux internationales que de façon tout à fait illégale, l'armée d'Israël a attaqué les bateaux, y compris il y a eu des morts, etc. On le sait, les gens qui partent là, je crois qu'ils sont tous parfaitement conscients de ce qui les attend, même si évidemment, comme on dit, c'est quand on est au pied du mur, ou en l'occurrence devant les hélicoptères ou les bateaux qui vont venir, qu'on va voir comment les gens vont se comporter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Sicile, il y aura un long temps de formation à ce sujet, justement, comment se comporter en mer, bien sûr, mais comment se comporter, ce qu'on n'apprend pas forcément quand on est attaqué. Donc Sylvie, tu voulais rajouter des choses.
Oui, je voulais rajouter que pour la campagne française, en tout cas, ça j'en suis certaine, et c'est pour ça que j'adhère pleinement à ce mouvement-là, c'est que c'est une démarche avant tout politique. Certes, il y a une crise humanitaire, mais c'est pas une crise humanitaire parce que il y a eu les criquets qui ont débordé, ou parce qu'il y a eu une méga inondation, ou parce qu'il y a eu je sais pas quoi. C'est une crise humanitaire pour des raisons politiques, et moi je suis très très attachée à mettre ces raisons politiques en avant, parce que c'est seulement par là qu'on arrivera à amener aux Palestiniens ce dont ils ont besoin, à commencer par leur autodétermination.
Bien sûr, voilà. Et il est évident que le fait que ces flottilles se soient créées de façon internationale et très massive depuis 2 ans, ben ça a le mérite déjà qu'on reparle chaque jour absolument de ce qui se passe à Gaza, parce que évidemment les médias font en sorte qu'un événement est effacé par un autre, et c'est l'avantage de ces flottilles, encore une fois, c'est qu'on passe par la mer, donc il peut y avoir des regroupements très faciles de bateaux, ça concerne des gens dans le monde entier, et donc ne serait-ce que pour cet objectif, c'est-à-dire parler tous les jours, toutes les nuits, de l'injustice absolue que subissent les Gazaouis, ben ces flottilles doivent exister, elles existent. Maintenant, Inch'Allah, on croise les doigts, c'est la mer qui va décider de ce qui va se passer, la météo avant tout, jusqu'au moment où il y aura ce qu'on appelle la ligne rouge, et où ben, on verra l'objectif, évidemment, que c'est que plus les bateaux sont nombreux, et plus il y a de chances que certains arrivent jusqu'à Gaza, c'est l'objectif. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'il y a donc un bateau qui s'appelle le Centre Culturel Embarqué, à bord duquel il va y avoir au moins 2 marins, mais ensuite des gens qui peuvent être des journalistes, des écrivains, des photographes, etc. Donc à bord de ce Centre Culturel Embarqué, comme à bord des autres bateaux, pendant la navigation, des choses vont se créer, des textes, des musiques, des photos, des dessins, etc. Et donc l'objectif, c'est qu'au fil de la navigation, ce Centre Culturel collecte auprès des autres bateaux ce qui aura été créé, et le moment venu change de cap pour lui ne pas être capturé et archiver tout ce qui se sera vécu pendant cette flottille, et bien évidemment ensuite en faire des restitutions pour toujours, toujours renouveler les motivations de plus en plus d'êtres humains pour contribuer à ce que cesse le blocus de Gaza, à ce que cesse le génocide, à ce que cesse les crimes contre l'humanité que commet l'État d'Israël et tous ses complices, les États-Unis en premier, mais évidemment aussi les États européens. Et malheureusement, on est obligé de dire que l'État français est beaucoup moins coopérant avec l'humanitaire que ne le sont par exemple l'État espagnol, l'État d'Irlande, etc. Et donc tous ces États sont complices. Nous, nous ne sommes pas complices. On se révolte, mais de façon pacifique. On va prendre la mer et on croise les doigts. Et maintenant, on s'en remet à Éole. Merci beaucoup, Sylvie. Et dans ces
Philippe.
Cas-là, on dit merde à ceux qui partent en mer. Et on part tous les deux. À bientôt. Merci.
À bientôt.
Voilà, nous sommes donc sur Radio Galère 88.4 et on écoutait le témoignage, les raisons de l'engagement de Sylvie sur l'un des voiliers de la Southern Madeleine 2026. Et je rappelle que donc énormément de gens ont embarqué sur ces 20 voiliers. Et parmi tous ces gens, il y a beaucoup de femmes, dont Sylvie, qui a un certain âge. Et il y a beaucoup de jeunes femmes, et y compris des femmes skippeuses. Hein, j'ai pu rencontrer Capucine, Jane, j'oublie un peu des prénoms. C'est pas que je les oublie, mais c'est que tout ça s'est organisé avec la plateforme Signal, avec souvent des pseudonymes, etc. Mais voilà, et puis je rappelle aussi que Madeleine, ça veut dire Madeleine en arabe. Et donc Madeleine, c'est le prénom d'une jeune Gazaoui qui, dans les années 2010, a vu son père, patron pêcheur, tomber malade et qui voulait absolument devenir patron pêcheur, ce qu'elle est devenue des années plus tard, et y compris elle est devenue mère et elle a eu quelques enfants, voilà. Et on peut voir, je dirais, les aventures de cette jeune fille qui voulait devenir patron pêcheur dans un film magnifique qui est en vision gratuite sur YouTube et qui s'appelle Aimer la mer à Gaza. Et voilà, le nom des flottilles Thousand Madeleine to Gaza vient du prénom de cette jeune fille. Alors donc après avoir entendu Sylvie qui vient de s'engager là et qui est donc partie de Marseille le 4 avril cap sur la première étape de regroupement en Sicile, on va entendre maintenant la doyenne des embarqués des flottilles 2025, Isaline Chouri, que j'ai eu la chance de rencontrer à Ajaccio. Son témoignage était passé dans les émissions du 22 octobre, qui est dans les podcasts de Radio Galère, l'émission Une heure en Palestine. Et on écoute ce témoignage qui est tellement instructif, tellement intéressant. Toi, Isaline. Ah, pas tout à fait tout de suite, Isaline. Après donc le témoignage d'Isaline, la doyenne de la Thousand Madeleine 2025, on écoutera une autre voix féminine, celle de Rislaine, qui, dès que chaque fois que c'est possible, nous propose une chronique très intéressante et importante à propos du boycott. Voilà, donc on écoute d'abord Isaline, la doyenne des flottilles 2025, et ensuite Rislaine, très très importante pour les actions citoyennes que chaque individu peut faire pour agir contre les actions illégales de la colonisation israélienne en Palestine. Voilà, donc à nouveau Philippe, et j'ai la chance d'être dans la maison d'Isaline Chouri à Ajaccio. Isaline, donc, est une extraordinaire femme corse et qui souhaitait un petit peu revenir sur la façon dont, d'une part, la Corse a été libérée après la Deuxième Guerre mondiale et aussi comment l'Assemblée de Corse a donc reconnu l'État de Palestine. Alors, merci Isaline de nous recevoir. Et donc, on t'écoute sur les précisions que tu voulais apporter par rapport à la présentation que j'avais faite.
Oui, donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est expliquer pourquoi je me suis embarquée sur cette flottille. Car ça étonne beaucoup de gens à mon âge et on se demande qu'est-ce qu'elle a été faire sur un bateau, c'est ridicule. Mais j'ai des raisons très solides. Une des raisons, c'est mettre la Corse à l'honneur. Cet événement est exceptionnel. On n'a jamais eu une flottille de cette importance pour intervenir, pour remplacer ce que les gouvernements ne font pas. Et pourquoi je voulais que la Corse y soit ? Car pendant longtemps, on a eu nos héros en Corse. La Corse, je le souligne, a été le premier département libéré, 10 mois avant le continent. Pendant des années et des années, on ne l'a pas dit après-guerre. Mais maintenant, c'est reconnu. Or, c'était le département le plus occupé de France, un occupant pour 2 habitants valides. La Corse a fait cette libération avant l'arrivée de l'armée, par les simples patriotes, car elle a créé une résistance unie et une résistance de masse, et une résistance armée. Elle s'est battue. Et là, vous avez les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde se battait. Le plus jeune que j'ai eu, c'est un petit garçon de 11 ans. On m'a envoyé sa photo, il était en communion. Il est mort, le fusil à la main, contre les nazis, là, parce que c'était la dernière partie de la résistance. Ensuite, nous avons travaillé beaucoup au collectif pour une paix juste et durable, en nous réunissant toutes les semaines pour parler de la Palestine. On n'a jamais réussi à étendre cette mobilisation, mais on a été très soudés, très fidèles au rendez-vous. Et de temps en temps, on faisait une opération choc avec une grande marche spectaculaire en se mettant des salopettes tachées de sang, etc. Mais on n'a pas beaucoup de militants qui nous rejoignent régulièrement chaque semaine. On a pris la décision d'envoyer une lettre aux députés, aux sénateurs et au président de la collectivité territoriale et à la présidente de l'Assemblée de Corse, où on explique on leur demande une réaction au public. Et là, on a la surprise et la joie d'être appelé à un vote à l'Assemblée de Corse, où on était spectateur et où ils ont repris les demandes. Et à l'unanimité, cette motion a été votée. Elle est symbolique car ça n'est qu'un État qui peut reconnaître un État. Mais ce symbole a eu beaucoup d'importance. C'est le premier modèle de pouvoir intermédiaire qui peut forcer un peu la main du gouvernement. Car peu de temps après, on a eu 86 mairies qui ont mis un drapeau palestinien. La préfecture a demandé de les enlever. Ils ont répondu non.
Okay.
Donc c'est du pouvoir.
Voilà, et j'entends dans ce que tu dis que finalement, parfois, les citoyens se désespèrent parce qu'ils ont l'impression que ça n'avance pas. Mais finalement, c'est par un travail opiniâtre de rappel, tout simplement des textes internationaux, oui. des droits qui ont été établis, que finalement, de façon tout à fait logique et démocratique, vous avez été invité à l'Assemblée de Corse, et que donc, ben voilà, cette Assemblée de Corse, même si malheureusement elle n'a pas peut-être assez d'autonomie, que ce n'est pas un État, la Corse, eh bien, c'est quand même cette Assemblée qui, en France, a été la première à reconnaître l'État de Palestine.
Voilà, alors, ben ça, j'ai c'est une important. Deuxième raison pour laquelle je me suis embarquée. Ça, c'est mon origine familiale. Donc, en effet, dans ma famille, c'est très lourd à porter, il y a deux héros. Il y a Danielle Casanova, qui a été une féministe, une des premières féministes, qui a créé l'Union des jeunes filles de France, qui a été les chercher une par une, des jeunes filles non cultivées, qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient pas de travail. Elle en a fait des politiques, elle les a insérées dans la société.
Voilà.
On en arrive à la troisième raison de mon engagement. Je vous disais donc, dans ma famille, très jeune, j'ai acquis des valeurs. J'ai acquis des valeurs un peu compliquées pour une enfant, mais je les ai ancrées très profondément. Les valeurs de Danielle Casanova, justice sociale, solidarité, fraternité et surtout lutte pour la défense des droits humains et lutte contre toute forme de racisme et d'exclusion. C'est pourquoi d'ailleurs je milite pour défendre les migrants, je milite à SOS Méditerranée, car c'est le droit international de la mer que je défends. On a obligation de sauver des gens. Je fais la lutte antifasciste et je travaille énormément en militant pour la liberté des Palestiniens. Pourquoi? Le dernier petit truc qui m'a fait m'engager énormément pour ce bateau, c'est que, après-guerre, j'ai milité contre l'antisémitisme, car c'était le peuple qui était maltraité, il y avait un génocide. Et j'ai entendu chaque année des survivants de l'Holocauste ou les familles de ceux qui sont morts dans l'Holocauste venir chez nous et dire plus jamais ça. J'ai même un carnet où ils disent de tous les camps où ils étaient, et il y a partout, il y a marqué plus jamais ça. Pour une enfant, c'est très marquant. Et puis à 17 ans, j'ai appris la guerre d'Algérie. Et j'ai compris que plus jamais ça, c'était pour tout le monde, mais pas pour les Arabes. Et là, je me suis indignée. Et j'ai commencé la lutte contre l'islamophobie. On nous interdit ce mot, mais il y a bien de l'islamophobie. Et en particulier, j'ai constaté que tout ça, ça vient du colonialisme. Avec les indépendances, on croyait que c'était du passé, tout ça. Mais j'ai constaté que toute l'Europe et toujours avec une idéologie coloniale et une pratique coloniale. C'est pour ça qu'ils défendaient Israël, c'est pour ça qu'ils ont été complices pendant 2 ans, c'est pour ça qu'il y avait les médias qui étaient muets. On voyait, nous, sur les réseaux, un génocide en direct et personne n'en parlait. Donc, c'est encore une raison pour laquelle j'ai été au-delà de ma propre peur, car je vous avoue que je me suis engagée pour partir dans cette flottille. Je vais avoir 83 ans en décembre, j'ai 3 enfants, j'ai 13 petits-enfants et j'ai 4 arrière-petites-filles. Donc on peut se demander qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère.
Voilà, alors
mais
attends. Oui.
Je rajouterai une chose. À quoi ça a servi d'avoir le panthéon des grands hommes si on n'applique rien des concepts qui ont motivé leur vie? Ça devient ridicule. Donc, c'était quelque chose, je ne pouvais même plus me poser de questions. Je devais y être, et je devais y être aussi pour représenter la Corse, car j'ai constaté qu'en Corse, le racisme monte à une rapidité effrayante, le fascisme s'installe. On a failli à un moment donné avoir le RN à plus de 50% en Corse. Cette île qui a été l'île des Justes, qui n'a pas fait déporter de Juifs, L'île de l'accueil, c'est tous les écrivains le décrivent. Cette île avec la passion des Iliens qui donne tout avec courage, du bon sens pendant la guerre et aujourd'hui elle vire du mauvais côté. Donc
Oui.
moi, en allant sur cette flottille, j'exhortais, j'ai d'ailleurs fait passer un message en disant tous les Corses, je vous demande de vous lever à Propriano, à Bastia, à Corte, à Porto Vecchio, soutenez notre flottille, c'est vital pour l'humanité. Donc voilà, je vous ai donné toutes les raisons qui m'ont fait partir sur cette flottille.
Oui, c'est des sacrées raisons, et d'autant plus que, de façon assez paradoxale, les Iliens, en général, ne sont pas forcément des marins, à part bien sûr les Polynésiens. Et du coup, pour préciser les choses, certains ignorants, certains peut-être jaloux, certains imbéciles ont qualifié les gens qui se sont engagés sur cette flottille de croisiéristes. Alors oui, ils vont en Sicile, ils vont en Grèce, absolument pas. Tu nous as expliqué, alors pour résumer, que sur ce grand bateau que tu étais avec plus de 100 personnes, vous aviez ce qui est fondamental. En bateau en mer, c'est le moteur et puis la nourriture. Hein, la personne la plus. Voilà, parce que quand on est dans un huis clos pendant plusieurs jours, il faut bien manger. Or, ce que vous aviez embarqué à bord des bateaux de la flottille, c'était bien évidemment destiné aux Gazaouis. Et du coup, vous aviez des menus tout à fait pas du tout appétissants, et ce qui t'a amené d'ailleurs à manger très peu. Et en plus, c'était un bateau avec plusieurs étages, et chaque jour, chaque nuit, on vous faisait faire des exercices parce que vous saviez très bien que avant même d'arriver dans les eaux territoriales d'Israël, vous serez attaqué, littéralement. Et donc, ça n'a pas du tout été une semaine rigolote, pas du tout. Et donc, tu nous as expliqué, voilà, que c'était très, très sérieux, cette fatigue. Et bien que, tous les gens qui se sont engagés, y compris certains de leurs bateaux particuliers, ont perdu leur bateau d'une part, et que, in fine, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que vous avez, dans un premier temps, alors déjà, dès le départ de Tunisie, hein, des bateaux avaient été attaqués par des drones. Et puis, tous les jours, toutes les nuits, vous viviez dans la certitude d'une attaque, dont vous faisiez des exercices, et finalement c'est en pleine nuit, tu m'as raconté que des hélicoptères sont arrivés et que des soldats ont été litrouillés. Tu m'as dit d'ailleurs que c'était des soldats très jeunes. Bon, et finalement vous êtes arrivés à terre. Donc je répète que cette attaque a été faite, attends, dans les eaux internationales de façon tout à fait illégale, mais je vois que tu voulais préciser quelque chose. Et du coup vous arrivez à terre, vous, c'est-à-dire tous ces équipages, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui évidemment sont traités avec déjà été traités bien avant leur départ comme des terroristes, alors que les gens qui étaient là simplement pour établir, selon le droit, un corridor humanitaire maritime. Alors du coup, vous êtes maltraités à terre, mais à part qu'il y en a certains d'entre vous, certaines en l'occurrence, bon, il y a eu la fameuse Greta Thunberg qui a été isolée, mais toi aussi, Isaline, tu t'es retrouvée isolée. Et est-ce que tu peux du coup nous dire maintenant à terre, qu'est-ce qui t'est arrivé de façon tout à fait incroyable et très terrorisante du coup, à terre? Alors nous sommes à terre.
En fait, il faut commencer quand j'embarque sur le bateau. Chose déjà amusante, vu mon âge, je dois m'acheter un sac à dos. J'ai jamais fait des randonnées à sac à dos. Moi, j'allais avec des tongs escalader mes sentiers corses. Hein, et je me retrouve équipé. Acheter une lampe à mettre sur mon front, une banane autour de ma taille et un sac à dos. Et on embarque sur ce bateau. Et là, on est deux personnes plus âgées que les autres. On nous propose une seule cabine. Il y a une cabine, mais elle est au deuxième sous-sol avec des escaliers qui sont des échelles. Or, nous savons, puisqu'on avait déjà commencé à terre, qu'on a énormément de réunions de préparation et qu'on est appelé par une sonnerie et qu'il faut faire très vite. Donc, on comprend qu'on ne pourra pas aller dans les cabines. Et là, on découvre au départ qu'on doit dormir entre des fauteuils par terre avec un tapis de yoga. J'ai moi-même une épaule qui a été blessée par un vaccin. Et les conditions sont assez difficiles. Mais très vite, on s'y fait. On savait très bien qu'on partait pas s'amuser. On savait très bien que la mer serait difficile. Moi-même, je suis claustrophobe et on était enfermés dans ces sans air. Mais tout ça disparaissait pour moi. Parce que la cause était beaucoup plus importante que le ressenti dans le voyage. Une seule chose me sauvait, c'est que j'aime la mer. J'aime la mer. J'ai fait très peu de bateaux, mais j'ai fait quand même quelques petites croisières en allant à la pêche, dans des îles, etc. Et j'aime la mer, j'aime nager. Donc me retrouver sur un pont, respirer l'air et regarder tout ce bleu, ça c'était le côté positif. Mais c'était pas la croisière s'amuse, je peux vous le garantir. On avait peu, d'abord il fallait faire attention aux finances, ça coûtait déjà cher d'installer tout ça. Donc la nourriture était très restreinte, on mangeait du riz et puis un peu de légumes écrabouillés, mais tout le monde s'en fichait, vraiment. Et également, on n'avait pas de confort. Et on avait énormément de travail, les exercices d'incendie, organiser notre réaction pour quand on serait à raisonner. On faisait des groupes et les groupes avaient une certaine autonomie. On pouvait décider entre nous quelle attitude on allait prendre. Est-ce qu'on allait repousser avec les mains en avant au lieu de les lever en l'air? Est-ce qu'on allait les lever en l'air? Est-ce qu'on les mettait un peu plus bas pour montrer qu'on était des pacifiques, mais qu'on ne provoquait pas. Que serait notre regard? On apprenait à dire on les regarde en face, mais sans les fixer. C'est plein de petites choses qui nous donnaient un travail fou tous les jours et des exercices de rapidité, car on ne savait jamais quand c'était réel ou pas. On avait la sirène, il fallait courir, enfiler nos gilets, s'installer par groupe et se préparer. Et là, on découvrait que c'était une fausse alerte. Jusqu'au jour où on a vu des drones. Beaucoup de drones qui sont passés pas loin de notre bateau. D'abord, on a retrouvé les petits voiliers. Et là, j'étais très contente parce que nous, on avait le gros bateau Conscience. On était 92. Mais moi, je connaissais les gens sur les petits voiliers car on les avait fait partir de Corse. Ils étaient censés partir d'Italie. Ils avaient acheté leur bateau en Corse. Mais moi, je voulais à tout prix qu'il y ait un événement qui parte de Corse. Je voulais que la Corse soit présente dans cette flottille. Donc, ils sont partis de Corse. Et certains, comme à la manifestation de soutien quand ils partaient, j'ai chanté Bella Ciao, j'ai fait un grand discours, ils me connaissaient. Et quand notre gros bateau les a rejoints, parce qu'on allait plus vite, on est parti après eux, ils ont fait un ballet de leur petit bateau autour de nous, on se faisait des grands signes, et tout à coup j'ai entendu crier « Isaline, Isaline !» Certains sur leur petit voilier me reconnaissaient. Et ça, c'était un moment chaleureux et pour nous extrêmement émouvant que toute la flottille se regroupe.
Ça, c'est important.
C'était un moment
Je me
important,
permets de
c'était très beau en
Permets
plus.
de te couper parce que les gens ne savent pas que depuis des décennies, il y a des flottilles pour Gaza, mais qui ne sont jamais arrivées, ne serait-ce que dans les eaux d'Israël. Mais souvent, c'était des bateaux seuls, isolés. Hein, par exemple, on a ce fameux bateau qui s'est appelé Madeleine, et qui a marqué, entre autres, donc Greta Thunberg et Rima Hassan, notre députée de la France insoumise. Mais quand on est isolé, enfin déjà dans les conditions que tu décris, à bord, vous étiez 98, mais le bateau se sent seul, alors que quand on est en flottille, justement, et de savoir que bien sûr qu'il y a des Corses, bien sûr qu'il y a des Français, mais il y avait des Australiens, enfin de 44 nationalités. Et là, évidemment, même si chacun se retrouve in fine seul face à ses angoisses et à sa réalité, de sentir qu'il y a comme ça une masse, un groupe, un collectif, à ce moment-là, on peut aller plus loin.
Et
Voilà.
justement, cette angoisse, elle disparaissait. La chaleur, la solidarité que nous avons eue me rappelait tous les récits qui a été de ma tante, qui à chaque fois, c'était la solidarité du groupe et garder sa dignité, être fort et compter les uns sur les autres.
Voilà.
Le nombre de personnes qui venaient pour m'aider, alors que je suis très vaillante, mais du fait que je sois plus âgée et que j'étais la doyenne de toutes les flottilles, il y a eu personne de mon âge qui a embarqué
Voilà.
sur un bateau.
Et
La
justement,
gentillesse, la solidarité
oui.
et puis le même militantisme.
Oui.
On avait les mêmes objectifs. Et l'image de tous ces petits voiliers, ils étaient huit, qui tournaient autour de nous, qui se
Oui.
rapprochaient, ça a été un moment très fort à ce
Voilà.
moment-là.
En tout cas, les mots importants que nous soulignons, évidemment, c'est les mots solidarité, les mots fraternité. Bon, maintenant, bien sûr, on dit aussi sororité, mais j'ajoute qu'il y a quand même au niveau maritime la légendaire solidarité des gens de mer. Malheureusement, même cette légendaire solidarité des gens de mer est battue en brèche, ne serait-ce que par rapport à SOS Méditerranée que tu citais précédemment. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de bateaux
Bien
qui
sûr.
sauvent ces pauvres gens d'une part et d'autre part. Voilà. Et donc finalement, vous avancez, mais chaque jour, chaque nuit est un travail et il y a des angoisses, mais bon, vous êtes en flottille. Et donc,
Et on
vous
est
vous vous rapprochez finalement.
Non, on est loin encore.
Oui, mais vous, petit à petit, mais vous êtes encore dans les eaux
Non,
internationales. Voilà.
on va très doucement,
Oui.
justement, pour ne pas arriver. On ne veut pas arriver trop vite, on veut
Oui.
qu'on soit tous groupés. On s'est même mis à l'arrêt à un moment
Oui.
donné. Et on est dans les eaux internationales, loin d'Israël,
Oui.
mais vraiment, puisqu'on a dû, après l'arraisonnement, naviguer une
Eh
journée.
oui.
Donc, complètement illégalement, on est arraisonné en eau internationale et très loin d'Israël. Israël n'est pas en danger, il n'a aucun motif de dire on se défend. Et là, comment ça se passe? Alors, je dois dire que on est prêt, moralement, mentalement, on s'est beaucoup entraîné, psychiquement, et on débarque sur le port, et tout de suite, là, c'est pas du tout comme les jeunes sur le bateau. Oui, j'ai oublié de te dire que quand on est sur le bateau, les jeunes qui descendent de l'hélicoptère sur des
Des jeunes
cordages
soldats,
arrivent,
hein.
c'est des
Oui.
gamins.
Oui.
C'est des gamins, ils ont des yeux d'enfants, ils sont eux-mêmes affolés de ce qui se passe. Moi, j'ai même pu les manipuler pour sortir sur le pont parce que je faisais semblant d'étouffer et que j'avais besoin d'air. Et je voyais ces yeux d'enfants effrayés parce qu'ils ne savaient pas gérer la situation. Et j'étais sûre qu'ils avaient tué des bébés, qu'ils avaient tué des femmes. Mais ils ont été entraînés pour ça, mais ils sont paumés. Et j'entends parler des suicides de plus en plus fréquents en Israël. Ça vient de cette jeunesse. Certains courageux brûlent leurs papiers militaires et d'autres qui ont moins de force morale, se laissent entraîner, mais ils sont complètement bousillés, quoi.
Oui.
Donc, après, arriver au port, c'est plus du tout la même chose. Là, on a affaire immédiatement à des gestes rapides et brutaux, et le premier commence sur moi, c'est-à-dire mes compagnons ne s'en aperçoivent pas. Dès que j'arrive, immédiatement, on vient me chercher, sans brutalité, et on me dit, il faut que vous voyez le médecin du port.
Je sais, c'est une fin d'interview un peu abrupte et on a tous et toutes très envie d'entendre la suite. Et ce sera la semaine prochaine. Ces initiatives, les routes du Za'atar, la flottille et toutes les autres actions, ce sont des choses concrètes pour qu'on ne reste pas interdit, littéralement. Et puis il y a autre chose, c'est notre pouvoir en tant que consommateur et consommatrice. C'est Rizlen qui va nous en parler. Mais d'abord, j'aimerais vous dire un petit mot sur la campagne BDS dont elle va faire mention. BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement et sanctions. Depuis des années, c'est une organisation qui existe partout dans le monde, y compris en France, où elle mène des campagnes pour rappeler des marques à l'ordre en faisant pression sur elles contre leurs exactions à travers le pouvoir que nous, on a en tant que consommateurs et consommatrices. Bon, et maintenant que vous savez mieux ce que c'est cette campagne BDS de boycott des investissements et sanctions, je vous propose d'écouter Rizlen sur le sujet et je reviens juste après.
Chères auditrices, chers auditeurs, je suis Rizlane et j'interviens régulièrement pour vous parler de l'actualité, notamment du boycott. C'est un sujet qui prend de l'importance, surtout en ce moment. Le boycott, c'est une manière pour les citoyens d'exprimer leur opinion en choisissant de ne plus acheter certains produits ou de ne plus soutenir certaines marques. Par ce geste, chacun pour montrer son désaccord et défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur. Qu'il s'agisse d'une cause sociale, politique ou environnementale, le boycott rappelle que nos choix de consommation ont un poids et peuvent influer, le comportement des entreprises, comme le montre dans cet extrait d'un reportage diffusé sur Arte qui illustre l'impact du boycott dans l'agriculture de l'État génocidaire.
Une mangrée qui domine le lac de Tibériade. La récolte est presque terminée, mais Rovendor sait qu'une grande partie ne trouvera pas acheteur. À la tête de l'exploitation depuis plus de 50 ans, il fait face à un phénomène massif, le boycott des produits israéliens par l'Europe, sur fond de tragédie humanitaire à Gaza.
Toute l'Europe nous boycotte. L'Angleterre, la France, quasiment toute l'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Italie. Et vous savez quoi? Je peux comprendre le ressentiment, mais je suis contre le boycott. Si l'Europe veut contraindre Israël à changer de cap, cela doit se faire par la voie diplomatique.
Pas de quoi mettre en danger cette exploitation. 65% des mangues partent sur les marchés locaux. Mais les pertes seront importantes. L'épouse de Reuven ne comprend pas.
Les rues en Europe sont envahies de drapeaux palestiniens. Ils n'achètent plus nos produits. Même en y mettant du mien, je ne comprends pas les Européens. Le Hamas leur a lavé le cerveau.
Ofer Levin confirme la tendance. Cet exportateur de produits agricoles approvisionne plusieurs chaînes de supermarchés en Europe. Selon lui, les marchandises israéliennes seraient boycottées à bas bruit.
Aldi Sud, l'un de nos principaux clients, a cessé d'acheter nos produits. On nous dit que les agriculteurs locaux font pression pour que la chaîne de supermarchés achète leurs propres produits. Mais nos importateurs nous ont avoué que la véritable pression était d'ordre politique. Leurs clients redoutent l'opinion publique qui ne leur permet plus de proposer des produits israéliens dans leurs rayons.
Dans un courrier qu'Aldi nous a adressé, le discounter affirme s'engager à s'approvisionner de manière responsable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette évolution inquiète beaucoup les économistes de l'université Reichmann de Tel Aviv, comme Benjamin Bental.
Pour le moment, ce sont juste des entreprises qui boycottent Israël. Mais nous craignons que ça ne s'étende au niveau des États et que cela ne se solde par des sanctions. Ce serait un coup dur pour Israël et sa capacité à se maintenir.
Reuven, le producteur de mangue, ressent déjà les effets de la crise. En attendant que la guerre et le boycott se terminent, il laisse ses fruits pourrir dans la cour du grossiste. Au moins, elles serviront à nourrir les animaux.
Et on rappelle que l'obligation pour les supermarchés d'indiquer clairement la provenance des denrées est obligatoire. Le non-respect de cette règle peut entraîner un contrôle de la répression des fraudes et ainsi qu'une lourde amende. Et une dernière actualité en lien avec le boycott. BNP Paribas a été condamné le 17 octobre à New York pour complicité d'exactions commises au Soudan sous Omar el-Béchir. Trois plaignants soudanais naturalisés américains ont obtenu près de 21 millions de dollars en réparation. Ils ont témoigné de violences subies par l'armée et les milices. Jan Jawid, responsable d'atrocités au Darfour. La banque est accusée d'avoir financé indirectement le régime, notamment via des crédits liés au pétrole et à l'agriculture. La défense a nié toute responsabilité, évoquant un contexte de violence récurrente. Le jury n'a pas retenu cet argument et a condamné BNP Paribas à indemniser les victimes. Cette entreprise fait partie du boycott ciblé de BDS. Le boycott ciblé est aujourd'hui notre priorité, car il représente l'outil le plus efficace pour peser sur le plan économique et politique. Chaque marque ou entreprise concernée a été soigneusement étudiée, non pas au hasard, mais en fonction de son rôle, de son influence et de son impact direct dans le système que nous voulons transformer. Le boycott ciblé est aussi un outil pédagogique et mobilisateur. Il donne à chacun des actions concrètes et accessibles. Changer ses habitudes de consommation, privilégier des alternatives, informer son entourage. Ainsi, chaque geste individuel s'additionne et devient un mouvement collectif capable d'ébranler même les plus puissantes structures. Au-delà de la simple pression économique, le boycott ciblé est un acte politique. Il oblige les décideurs à constater que l'opinion publique peut s'organiser, qu'elle peut refuser la complicité silencieuse et qu'elle exige des changements concrets. C'est pourquoi nous faisons de ce boycott ciblé une priorité, parce qu'il transforme l'indignation en action et l'action en pouvoir de changement. Pour connaître la liste complète et à jour des marques et entreprises ciblées, rendez-vous directement sur le site de la campagne BDS, www.bdsfrance.org. Et sans oublier les applications indispensables à notre lutte, comme Boycott X, No Thanks et Boycott. Il vous suffit de scanner pour savoir si c'est à boycotter ou non. De scanner le code barre, pardon. Avec les arguments pour chaque entreprise, vous avez tout ce qu'il vous faut pour savoir si vous devez boycotter ou non cette entreprise. Et je vous quitte avec cette belle musique pleine d'espoir pour le peuple palestinien qui vit en ce moment les heures les plus sombres de l'histoire. Et le titre de cette musique est « Palestine will be free » de Rimbiana. À la prochaine et merci de votre écoute.
Settles on the towers where the might once stood so tall. A whisper turns to a roaring wind, answering freedom's call. The chains that bound the ancient stones begin to rust and break, for the superpower has fallen for past Palestine's own sake. Oh, the superpower has fallen. Hear the joyous rising plea from the river to the sea. Palestine will be free. The olive trees are swaying in a breeze of sweet.
Merci Rizlan pour cette géniale chronique et ce beau choix de musique qui, pour ma part, a soufflé un petit vent d'espoir. C'était Palestine Will Be Free de Rimbiana. Encore merci Rizlan et j'espère qu'on te retrouvera bientôt sur les ondes de Radio Galère 88.4, ici dans l'émission Une Heure en Palestine. Justement, cette heure s'est écoulée. Faites la durée dans vos chaumières en réécoutant ce podcast et en parlant sans relâche de la Palestine, des Palestiniens et des Palestiniennes. Nous ne savons que trop bien que notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens. Cette phrase, elle n'est pas de moi, je l'ai reprise de Nelson Mandela lui-même. Il l'a prononcée en 1997 et c'est là-dessus que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, c'était Marie. À très vite dans Une Heure en Palestine.
Voilà, nous sommes donc le 22 avril, vous avez compris que cette émission a été enregistrée le 13 avril, et donc le 22 avril, c'est le jour à peu près normalement où le regroupement de la flottille Southern Madeleine to Gaza avec la flottille beaucoup plus nombreuse et internationale, la Global Sumut Flotilla, se retrouve en Sicile pour ensuite partir. Alors pour ma part, j'enregistre là, nous sommes le 13 avril, et si tout va bien, au moment où vous m'écoutez, je serai reparti en Corse avec la route du Zaatar, hein, que j'ai créée il y a 5 ans avec en partenaire principal la petite entreprise basée en Aveyron, FIP, France Import Palestine. Et presque par miracle, au moment où le mercredi 1er avril, c'est pas une blague, nous amenions depuis Martigues la nouveauté des flottilles 2026, c'est-à-dire un bateau qui s'appelle le Centre Culturel Embarqué. Ce bateau-là, il y aura des marins, bien sûr, des artistes, et ce bateau-là va collecter au fil de la progression des flottilles ceux qui se créent à bord des bateaux, et pour que tout ne soit pas perdu comme les autres fois, va changer de cap le moment venu, et ensuite pour pouvoir faire des restitutions de ce qui se passe à ces flottilles. Et donc, ce jour-là, le 1er avril, eh ben, enfin, un cargo a pu traverser la Méditerranée pour amener dans le port de Fos un conteneur contenant des produits palestiniens alimentaires et artisanaux. Et donc j'ai pu être livré là par le Philistin, donc je suis en Corse en ce moment et on espère que tout va bien se passer, surtout pour ceux qui sont sur les flottilles. Et donc rendez-vous à une prochaine émission sur Radio Galère, toujours avec Sidi et toutes celles et tous ceux qui animent cette émission. À bientôt.